Et nous sommes en direct par téléphone avec Claro. Merci beaucoup d'être avec nous.
Bonsoir.
On va commencer par une première question. On va attaquer vivement dans une partie très impressionnante du clavier cannibale, cette partie que vous intitulez de la littératologie. On y rencontre une littérature ambitieuse, donc ce que vous appelez une littératologie. Est-ce que c'est une sorte de mode d'emploi pour écrire un livre monstrueux ?
Je ne pense pas qu'il puisse y avoir de mode d'emploi. C'est peut-être des pistes pour arriver à décrypter ces ouvrages qui nous paraissent de loin comme ça un peu inabordables, que certains prétendent illisibles, d'autres passionnants, mais en tout cas qui ont un point commun, ce que je désigne par littératologie, c'est-à-dire une espèce de littérature de la monstruosité. Déjà une monstruosité souvent de la taille, parce que ce sont des livres qui ont une ambition, qui ont pris du temps de gestation, donc forcément ils font pas 250 pages. Hein. J'en parlais justement avec Amélie hier. Voilà, donc déjà ils ont une taille qui est impressionnante, parce qu'ils se veulent également des objets. Je pense qu'il y a une volonté dans ces livres monstrueux d'être imposants. Après, bien sûr, ils sont imposants par autre chose, ils sont monstrueux par d'autres détails, d'autres facettes, à savoir qu'ils naissent d'un projet qui n'est pas, je dirais, le livre total, parce que je pense que ça, c'est une idée qu'on peut dater de Mallarmé et qui n'est pas vraiment réalisée, ou alors qui réussit et échoue en même temps avec Joyce. Donc après, il y a autre chose, il y a l'idée plutôt de construire une machine, de construire une espèce d'énorme machine qui ne puisse fonctionner qu'avec le combustible d'une lecture active. Donc il y a une part qui est demandée au lecteur qui est assez importante. Alors c'est pour ça que c'est facile d'appeler ça des livres difficiles. Moi je pense plutôt que ce sont des livres complexes, puisque c'est quand même le projet de la littérature, c'est de complexifier les choses, non pas de les compliquer, mais de les complexifier, c'est-à-dire de créer un monde, un microcosme, enfin, voire macrocosme, hein, quand ça commence à faire 1000 pages, mais qui se tienne complètement, qui fonctionne, qui invente son propre fonctionnement, qui invente ses propres règles, sa propre langue. Donc ça ne le rend pas du tout illisible, ça demande juste que le lecteur peut-être entre dedans avec une forme de peut-être d'abandon au départ, en tout cas se laisse porter et aborde ces livres monstrueux en disant voilà, je vais les apprendre. Ils sont écrits dans une langue particulière, avec des perspectives, des structures particulières, et je ne les connais pas au départ, je n'ai pas de modèle forcément précis. Donc voilà, je vais apprendre avec eux, et surtout c'est eux qui vont m'apprendre comment ça fonctionne. Pour dire brièvement comment j'envisage cette littérature, la monstruosité.
Vous dites qu'il y a une part qui est demandée au lecteur. À un autre endroit, vous dites que le livre se pose comme rival du temps de travail, que lire est de l'ordre de la perte. Ça, c'est du côté du lecteur.
Oui, parce que effectivement, c'est toujours un lieu commun de dire ça, qu'on est dans une société où on n'a plus le temps de lire, de faire quoi que ce soit. Enfin, on a quand même le temps de passer 5 heures sur Facebook, d'après ce qu'on lit. Donc, visiblement, les gens ont le temps. Mais le problème de ces livres-là, c'est qu'effectivement, ils sont un défi, parce qu'ils demandent un certain nombre d'heures de lecture. Et dans ce cas-là, je pense que justement, c'est ça qu'ils demandent aussi au lecteur. C'est de retrouver le temps de la lecture, de prendre sur lui, pas forcément son plan de travail, mais en tout cas, ça, c'est quelque chose d'exigeant. Parce que voilà, la personne qui a écrit ce livre-là, c'est quelqu'un qui a passé du temps, qui a mis de l'exigence, et donc il part du principe que le lecteur aussi a un certain travail. Il doit comprendre que voilà, une lecture, c'est une expérience. Donc comme toute expérience, elle peut être violente, elle peut prendre du temps, elle peut être triste, elle peut être joyeuse. Enfin, elle traverse forcément plusieurs phases.
Oui, parce que on peut même, du coup, ça va vraiment à l'encontre de nos modes de vie. Oui, ces fameux, je vous cite, ces fameux livres qu'on dit souvent illisibles ne le sont bien souvent que parce qu'ils exigent un temps d'absorption que notre emploi du temps nous refuse.
C'est évident que le livre, de plus en plus, une littérature exigeante de recherche, elle est en conflit avec la vie normalisée qu'on essaye de nous imposer. Donc en passant par eux, en revanche, je pense que le lecteur, l'individu, en devenant lecteur de ces livres, peut récupérer, rogner comme ça une part de liberté supplémentaire.
Mais on ne dit pas forcément que ces livres sont illisibles aussi faute de temps. Il y a peut-être aussi un souci du coup, c'est ce que vous appelez complexifier les choses. Vous dites à un moment donné, s'affranchir du malsain diktat de la linéarité.
On est obligé de remarquer qu'il y a une confusion en fait qui existe, qui est entretenue depuis longtemps, entre le livre, le romanesque, le linéaire. Et donc il y a de tentatives comme ça, des gens qui produisent des livres, qu'ils soient éditeurs ou écrivains d'ailleurs, pour toujours rabattre l'entreprise du livre sur une pure entreprise linéaire. Parce qu'on peut très bien faire du romanesque qui n'est pas linéaire, hein, il suffit de prendre n'importe quel roman français ou espagnol du XVIIe ou du XVIIe siècle. Et voilà, raconter une histoire, c'est pas forcément la raconter dans l'ordre. Ce n'est pas forcément s'empêcher des digressions. Voilà, quand Victor Hugo, dans Les Misérables, il fait 100 pages sur les égouts de Paris, il sait très bien ce qu'il fait d'un point de vue romanesque. Donc voilà, c'est toujours un combat de ces livres contre cette idée que il y a presque voilà, une histoire, c'est forcément quelque chose qui se raconte, pas qui se décrit, pas qui se décompose, pas qui se chahute, pas qui se détraque. Et la linéarité, au bout d'un moment, finalement, elle ne doit exister que dans là, quelques dizaines de romans bourgeois qui sortent à la rentrée, parce que dans la vie, elle n'existe pas. Enfin, tout le monde en fait l'expérience. Une journée, ça se déroule pas du matin au soir comme une ligne. Voilà, donc c'est aussi un rappel. Ces livres-là, je pense, sont un rappel de ce qu'est un déroulement, on va dire presque biologique, hein. Il y a une vie dans les livres aussi. C'est quelque chose de dispersé, de chaotique. Il y a des fractures, des lignes de fuite. C'est pas une espèce de petit ruban qu'on défile comme ça, presque à l'infini. Enfin, en tout cas, un infini de 200 pages.
Je voudrais juste continuer par une dernière question sur cette question d'illisibilité, parce que il me semble que dans votre livre Le Clavier Cannibale, vous apportez justement des réponses assez inédites sur cette question d'illisibilité, parce que généralement on taxe les livres monstres, on taxe notamment Pierre Guyotat d'illisibilité. Et j'ai l'impression que l'originalité notamment du Clavier Cannibale, c'est que vous apportez des réponses précises sur cette question-là en délégitimant complètement ce terme d'illisibilité appliqué à la littérature monstre. Vous dites cette soi-disant illisibilité qui n'est finalement qu'une erreur de parallaxe engendrée par notre conditionnement social. Ça veut dire qu'on n'est pas habitué à lire ces choses-là, donc du coup, on les taxe finalement d'illisibilité et hop, on passe ailleurs.
Je pense que parce que on a oublié que lire un livre, c'était chaque fois réapprendre à lire. Et que le lecteur, voilà, quand il ouvre un livre, je donne un exemple que je donne souvent, quand vous lisez Proust pour la première fois, bon, vous êtes un peu désarçonné, parce que, tout simplement, vous n'êtes pas un lecteur de Proust. Quelque chose n'a pas été inoculé en vous, vous ne savez pas comment ça marche, etc. Donc vous allez devoir apprendre à lire du Proust. D'ailleurs, c'est Proust lui-même qui disait que les grands livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère, ce qui veut bien dire que ce que fait un écrivain, c'est pas forcément qu'il fait une langue imaginaire ou recréée. Si on prend l'exemple extrême de Guyotat, qui est passionnant, on peut avoir des styles de différentes intensités, de différents degrés d'innovation. En tout cas, le propre d'un style, c'est d'être une langue à l'intérieur d'une langue. Donc, le lecteur, s'il trouve que quelque chose est... Voilà, c'est Amélie Nothomb, par exemple, c'est pas Pierre Guyotat ou Régis Geoffrey ou je ne sais qui. Donc le problème, c'est que on qualifie, enfin voilà, les gens qui qualifient des livres d'illisibles, c'est toujours parce que voilà, c'est des auteurs plus ou moins qui pour eux sont de l'avant-garde. Enfin, c'est l'éternel tarte à la crème du danger du texte depuis les années 60. Mais on sait très bien que c'est pas ça. L'intérêt d'un livre, c'est de vous apprendre à lire. Et c'est ça qui est très beau, c'est qu'on apprend une langue. Voilà, tous les gens qui ont lu Proust ont vécu cette expérience comme ça, où il y a une forme d'hypnotisme. On ressent presque les mêmes choses quand on baigne dans un pays, soudain, dans une autre langue, qu'on se met à apprendre in vivo comme ça. Donc évidemment, ça demande un certain travail, mais je pense que c'est... Enfin, voilà, c'est, la notion d'illisible, en tout cas, elle n'est pas de ce côté-ci. Donc oui, quand je parle d'erreur de parallaxe, c'est ça. Il faut se placer dans une bonne optique par rapport au livre. Donc ça veut dire aussi qu'il y a peut-être des livres qui ne se lisent pas en entier, il y a peut-être des livres où on peut sauter des passages. Qu'il y a peut-être une façon des fois d'inventer une lecture. Alors évidemment, il faut savoir quel passage sauter. Par exemple, dans Balzac, Si on saute les descriptions en pensant qu'en gardant l'intrigue, on va avoir le suc du livre, on fait une grossière erreur. Parce que ce qui se passe vraiment, c'est quand il décrit un buffet, quand il décrit un pied ou un habit. Donc voilà, il faut chaque fois réinventer. Il est évident qu'un livre qui fait 1000 pages, non, on ne le lira pas forcément en entier. C'est pas ça forcément de nous qu'il exige comme lecture. Et peut-être c'est plus important de lire 200 pages à fond, de façon très vécue, très ressentie et voire analysée, plutôt que de faire semblant de lire 1000 pages en survolant et en restant à la surface des choses. Donc ça demande une inventivité, ça demande aussi ce que le lecteur soit décomplexé. Mais je pense que les livres dont auxquels on fait allusion sont aussi des livres suffisamment qui ont ce gai savoir à l'intérieur, qui ont une notion de l'humour. Enfin, même si on parle d'Artaud, il y a de l'humour dans Artaud. C'est pas des gens qui non plus qui prennent le lecteur en otage comme on voudrait nous le faire croire.
Vous employez une expression de celle de lecture pratique pour dire un peu que par quelle méthode de lecture lire ces livres remontent. Parce que Le clavier cannibale, c'est presque une méthode pour lire ces livres-là. Alors, c'est quoi la lecture pratique ?
La lecture pratique, c'est... Moi, je pense que c'est seul le livre en question qu'on lit qui va vous l'enseigner. C'est lui qui a qui a la structure, il a sa propre grammaire, son propre lexique, et c'est ça qui vous apprend la lecture. Mais ça se complexifie, parce qu'évidemment, si on veut apprendre à lire Amélie Nothomb, pour ne pas la citer, ça prend pas très longtemps parce que globalement son système narratif, son lexique, sa grammaire, etc., sont pas complexifiés et surtout ne sont pas en évolution. Donc voilà, c'est comme d'apprendre des phrases très simples. Au bout de 10 pages, vous avez compris, vous pouvez en gros refaire des exercices. Hein. On est de l'ordre de la dictée. Alors que le problème d'une écriture qui se complexifie, c'est qu'elle évolue et c'est là où on aboutit à quelque chose qui est passionnant, qui est le paradoxe du style. À savoir qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui se fabrique une écriture, qu'il estime vivante comme ça, et en pensant qu'elle a un rapport très fort avec son corps, quelque chose de très physique, hein, comme c'est une production du corps, l'écriture. Mais au bout d'un moment, effectivement, à force d'être mis au travail, on peut dire, l'écriture a une tendance à aller vers autre chose qui s'appelle le style. Et donc c'est une nouvelle vie de l'écriture, mais beaucoup plus forcément figée, où les trouvailles peuvent devenir des trucs, où les intuitions peuvent devenir des manies, etc. Donc l'écrivain lui-même, en fait, est obligé d'écrire contre lui-même. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand il arrive à... Voilà, il est content, par exemple, de sa page, de l'écriture qu'il a générée, et en fait, au bout d'un moment, il se dit, il faut que je change des choses à l'intérieur de ça, parce que si je reste comme ça, je vais me parodier moi-même. Donc forcément, il change tout le temps un petit peu les règles du jeu. Pour lire ça, effectivement, il faut déjà en avoir conscience, je pense, comme lecteur, pour arriver à avoir des livres où il n'y a rien à apprendre, parce que la langue est donnée tout de suite, comme ça, comme une petite crêpe imposée sur une belle assiette, puis elle a que deux côtés maximum. Et puis ces livres qui sont organiques et qui justement luttent pour ne pas être figés et aussi géniaux soient-ils, pour ne pas abuser. Il peut y avoir des facilités. Voilà, donc l'écriture et la lecture, c'est deux côtés d'une même chose et d'une même expérience et qu'on peut facilement, en fait, je pense, traverser.
Allô ? Allô ?
Allô, oui.
Allô, ah voilà, vous êtes toujours là. j'ai cru qu'on avait été coupé. Alors, on peut rentrer dans un exemple. Dans Le clavier cannibale, vous prenez beaucoup d'exemples à partir des fictions de Pynchon. On pourrait commencer par une question générale sur cet exemple de Pynchon. Qu'est-ce qui va caractériser une fiction de Pynchon ? Vous écrivez, que trouve-t-on dans un roman de Thomas Pynchon ? Trop de choses. Trop.
Ça, je pense que c'est une... Voilà, on parlait de la monstruosité. Et le trop, c'est une des caractéristiques. C'est-à-dire que ce sont des romans qui, quelque part, quand même, veulent donner une représentation, un écho, une ombre portée de la réalité. Donc, la réalité, c'est trop. Hein. C'est même sur 5 minutes en traversant une rue, c'est trop la réalité. Donc, il y a une façon, comme ça, dans cette littérature, de rendre compte de l'excès. Non pas pour étouffer le lecteur, mais pour lui dire, voilà... Ben ouais, c'est comme ça. Ça foisonne, ça part dans tous les sens. Et ça veut dire qu'il y a, à l'intérieur de ce foisonnement, une condition de liberté. de libre arbitre, de choix. Donc, tu peux lire cette phrase comme ça, tu peux la lire comme si, voilà, il y a plusieurs entrées, plusieurs modes, et le trop est une donnée qui est préexistante. Et après, il y a certains livres qui aiment ce trop, voilà, qui aiment le mettre en scène, en faire quelque chose de tragicomique, de bouffon. Il y a des livres également qui, au contraire, luttent contre ce trop et qui en rendent compte dans l'effet inverse. Par exemple, si on prend La route de Cormac McCarthy, il est dans l'effet inverse. La langue de Cormac McCarthy est très, très épurée par rapport à une langue foisonnante de Pynchon. Elle n'est pas inférieure du tout. Elle travaille complètement autre chose et elle est complètement dans le détour, dans le vide, dans le non-dit, dans la suggestion. Et c'est un travail différent qui, effectivement, après, a peut-être un rapport avec un trop ou une absence, ou etc. Mais heureusement, il y a plusieurs modes d'appréhension du trop que uniquement le trop. Sinon, c'est vrai que c'est un peu, ça peut être bourratif à la fin.
Parce que pour vous citer, vous avez cette phrase admirable sur le travail de langue de Pynchon. Le fait est qu'on ne trouvera pas dans l'œuvre de Pynchon une seule phrase éprise d'anodin, la raison en étant que l'auteur considère la langue non comme un médium commun visant à titiller des sensations partagées, mais comme une machine cherchant à prendre à revers les effets de lecture, parant d'un air de charade des énoncés sur lesquels on aurait tendance à glisser si leur identification était trop accentué. Donc du coup, il y a une surcharge, c'est bien ça.
Mais l'écrivain est toujours... voilà, quand il écrit, il n'écrit pas avec une langue comme ça qu'il a créée tout de suite. Hein, il écrit avec sa langue presque, on va dire, de tous les jours. C'est une espèce de pâte molle comme ça au départ. Mais en revanche, dans cette pâte molle, il y a plein de choses très, très rigides qui font que quand on écrit, on est toujours tiré... enfin, toujours... On sent en tout cas une espèce de pression en tout point, comme ça, de l'expression toute faite, de ce qui va suivre. C'est-à-dire que voilà, c'est pour ça qu'il y a tant d'écrivains qui passent 3 mois sur un livre, qui en font 200 pages et qui vous disent « j'ai l'impression que le livre s'est fait lui-même ». Mais bien sûr, parce que si on n'est pas un petit peu aux commandes, le livre se fait tout seul. Voilà, vous commencez un paragraphe tout simple sans chercher à biaiser ou miner votre énoncé. Il va aller très simplement où il doit aller. Hein. Ça va être de la linéarité, de la psychologie de base. Toutes les expressions sont là, toutes les phrases ont été écrites, donc ça va être très simple. Pynchon, évidemment, comme d'autres, travaille la langue pour trouver une espèce de terreau commun comme ça avec le lecteur, en disant, voilà, c'est pas non plus aberrant ce que je te raconte, mais on va décoller très vite, on va changer, et ça va nous permettre... de à la fois briser tes habitudes de lecture, briser tes réflexes imaginaires, parce que même dans l'imaginaire, évidemment, on a du cliché, tes réflexes de psychologie, tes réflexes sensoriels. Donc c'est tout un travail qui est fourni par l'écrivain, mais qui est donné, et qui est peut-être donné et exposé aussi au lecteur, comme si on pouvait, dans le mouvement d'une phrase pynchonienne, apercevoir tous ces micro-moments où Pynchon décide d'aller, non, là je vais aller à gauche, là je vais aller à droite, là je vais faire bifurquer, là je vais casser. Voilà, donc on peut trouver ça cérébral. Moi je trouve au contraire que c'est extrêmement physique, cette sensation de voir la langue tout d'un coup prendre des inclinaisons différentes.
Est-ce qu'il y a des continuateurs de ce travail en France? À un moment donné, vous posez la question, vous dites « bizarre quand même que Pynchon n'ait jamais fait de petit outre-Atlantique, que Schmitt n'ait bousculé personne ici ». Est-ce que vous trouvez qu'il y a des personnes qui reprennent ce travail-là?
On n'a pas forcément de réponse. Hein. Céline se posait la même question, il se disait bah « non, j'aurais pas de continuateur », ou alors ils vont m'imiter, ils vont mettre 3 petits points partout, etc. comme ça. Il se trouve, effectivement, il y a 2 questions, en fait. C'est est-ce que peut-être on n'est pas assez lecteur d'une littérature autre, étrangère, qui donc tente forcément, avec le médium qui est sa langue, des aventures qui ne sont pas les nôtres, et dont la lecture, nous, pourrait nous enrichir, mais il y a aussi des aventures littéraires dans sa propre langue, dont peut-être on n'a pas su, qu'on n'a pas su à écouter, avoir la bonne oreille. La question est de savoir si... Est-ce que c'est une question d'importation? Ces œuvres ont mis trop longtemps à venir ou elles arrivent au mauvais moment? Tout ça, c'est très délicat. En tout cas, les coupables, ce sont les écrivains eux-mêmes. C'est-à-dire que s'ils refusent de se nourrir d'autre chose que de leur propre livre ou de ceux de leurs copains d'arrondissement, c'est sûr que ça ne fait pas avancer les choses. Donc la question, c'est, donnons de plus en plus à lire des choses autres, étrangères, aliens, afin de nourrir de plus en plus notre propre littérature. Par exemple, les Américains, on pourrait être étonné qu'ils aient une littérature, que ça aboutisse à des types comme Danielewski, John Barthes, Pynchon, alors qu'apparemment, ils ne lisent pas trop la littérature européenne, puisqu'elle n'est quasiment pas traduite chez eux. Mais si on interroge ces écrivains-là, on s'aperçoit qu'ils sont tous férus de littérature européenne, française, d'Europe de l'Est, d'Amérique latine. Voilà, ce sont des gens qui en permanence passent par d'autres chemins. Sinon, si on reste dans un territoire franco-français, ça, c'est évident qu'une langue, elle peut pas évoluer. Enfin, la langue de l'écrivain peut pas évoluer si elle n'est pas confrontée de temps en temps un peu à des chocs thermiques.
Oui, vous dites d'ailleurs ça sur la traduction. La littérature traduite n'a que faire de la littérature étrangère. Celle-ci existe et sans nous. La littérature traduite a besoin d'écrivains français pour calculer la trajectoire de ces météorites et la force de leur impact sur notre sol. Et je dis sol comme on devrait dire peau et non patrie.
Le problème de la littérature traduite, c'est est-ce qu'on va traduire juste parce que voilà, il y a des livres qui existent dans un autre pays et puis on a déjà leurs chaussures, leurs blousons, leurs cornflakes, donc prenons leur littérature. Donc ça peut être ça. Ça s'appelle simplement de l'importation et ça n'obéit qu'aux lois pures du commerce, ce qui est forcément souvent un échec parce que le livre n'est pas un produit de consommation tout à fait comme les autres. Soit on fait passer des livres parce qu'on a une réflexion sur la littérature et on pense que ces livres manquent. Non, tant qu'on ne les a pas, on ne sait pas qui manque. C'est peut-être justement en venant qu'on s'aperçoit qu'ils nous ont manqué. Donc ça veut dire que la démarche, elle doit se faire au niveau éditorial, au niveau des agents, enfin il ne faut pas rêver, au niveau des traducteurs qui sont aussi des têtes chercheuses, et puis surtout au niveau des écrivains qui doivent se montrer gourmands de cette littérature, qui doivent peut-être rebondir. Ça serait, moi je trouve que ça serait très intéressant d'avoir des livres étrangers qui soient critiqués, chroniqués par des écrivains français dans la presse ou les revues pour qu'on... Voilà. Après, il suffit de chercher, on parle à des gens, on s'aperçoit, je ne sais pas, par exemple, Pierre Sange, écrivain français publié par Vertical, est un fou de Pynchon et un fou d'Arnaud Schmitt. Et quand on le sait, peut-être après, ça nous permet de lire ces livres de façon avec plus d'écho. Mais il n'y a pas encore énormément de... Enfin, on ne peut pas dire que le dialogue soit vraiment mis en scène et travaillé.
J'avais une dernière question qui va dénoter un petit peu, mais j'avais très envie de vous la poser. Vous faites souvent le lien entre Deleuze et Pynchon. Pourtant, assez curieusement, enfin, Deleuze n'a jamais parlé de Pynchon, non ? Enfin, il me semble. Est-ce que la pensée de Deleuze...
Deleuze est cité une seule fois dans toute l'œuvre de Pynchon, et je crois que c'est dans l'arc-en-ciel de la gravité, de façon plutôt ironique, mais après, moi, ce sont plutôt des...
Mais Deleuze n'a jamais parlé de Pynchon, lui.
Des expériences de lecture, des choses qui ont été formatrices, et qui ont cette chose en commun, l'un en théorie avec Deleuze, et l'autre en pratique avec... avec Pynchon, c'est de traiter, on va dire, le langage, puis évidemment d'autres disciplines, mais sous l'angle des forces, des intensités, et non plus sous une simple structure où, voilà, c'est donc on n'est plus dans la psychologie, on n'est plus dans comme ça des catégories des années 50. On vit la littérature, l'écriture comme un petit peu on analyse l'inconscient sous forme de pulsions, de forces, etc. Et du coup la lecture n'est plus du tout la même, voilà, ce qui fait que ça distingue au final une littérature qui reste du côté de la dictée, parce que j'appelle moi la dictée, hein. C'est-à-dire que dès qu'on l'entend, on a envie de se mettre debout et de la lire à des gens en espérant qu'ils recopient. Et puis une autre qui est de l'ordre de la musique, de l'orchestre, et qui fait plus danser les corps que recopier ligne à ligne.
Ma question c'était, est-ce que la pensée deleuzienne se prête bien à celle de Pynchon ?
Moi, Pynchon étant quelqu'un d'absolument secret, ça serait vraiment faire la prospective que de dire ça. En tout cas, ce qui est évident, c'est que Deleuze est sûrement un des philosophes qui a eu le plus d'influence sur les écrivains. Je connais très peu d'écrivains qui font des choses passionnantes, qui ne soient pas influencés par Deleuze, donc qui sont influencés par cette pensée-là. Est-ce que Pynchon a été influencé par ça ? J'en sais rien. Je suppose qu'il les a lus comme il a lu. Les philosophes français ont été beaucoup traduits aux États-Unis et très tôt. En tout cas, ils ont cet amour ludique, jubilatoire de la complexité en commun, ça c'est certain.
Eh bien, merci beaucoup, Claro, d'avoir bien voulu répondre à mes questions en direct par téléphone. Mille merci beaucoup. Bonsoir
Merci
à
à
vous.
vous.